l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous, et content de vous retrouver après une longue interruption et avec une émission enregistrée il y a quelques jours, juste avant le départ d'une expédition qui a quitté Nouméa lundi dernier à la recherche de celui dont nous allons parler aujourd'hui, le comte de La Pérouse.
Dans la dernière lettre que nous avons reçue, qui date du 7 février 1788, La Pérouse fait part de son programme pour l'année en cours. Seulement depuis ce 7 février, nous sommes sans nouvelles.
D'histoire. On dit qu'une heure à peine avant de monter sur l'échafaud, Louis XVI avait interrompu ses prières pour demander des nouvelles de La Pérouse. Depuis 5 ans, personne ne savait ce qu'était devenu ce capitaine de vaisseau et ses 2 bateaux, l'Astrolabe et la Boussole, disparus au bout du monde, quelque part dans l'océan Pacifique. Parti de Brest le 1er août 1785, 4 ans avant la Révolution française, Jean-François de Gallo, comte de La Pérouse, avait reçu de Louis XVI une mission qui devait faire de lui l'équivalent français du capitaine Cook. Mais ni lui, ni le roi de France ne savaient qu'il n'en reviendrait pas et que pendant plus de 200 ans, plusieurs générations de marins et de savants allaient partir à la recherche d'une des plus grandes expéditions maritimes de l'histoire.
Monsieur La Pérouse, j'ai grande confiance en vous. Aussi ai-je pensé à vous pour commander une longue exploration.
Où votre majesté m'envoie-t-elle?
Votre expédition devra traverser l'Atlantique et gagner le Pacifique. Il s'agit pour vous d'une manière d'espionnage comprenant toutes les régions et tous les domaines, l'économie, les matières premières, les conditions politiques, même dans les contrées déjà touchées par la civilisation.
Sire, je demeure à vos ordres.
Nous ferons route au sud-sud-ouest jusqu'à Biscay, puis à l'ouest de Finistère pour y trouver les alliés. Nous devons passer par Rio et le Cap Horn jusqu'au Pacifique.
Amiral Bellec et Pierre-Louis Castelli, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, c'était Louis XVI confiant à La Pérouse une des plus grandes expéditions maritimes de l'histoire, une expédition qui a disparu dans le Pacifique il y a plus de 200 ans et à la recherche de laquelle un bateau de la Marine nationale, le Jacques Cartier, va partir de Nouméa avec à son bord Yves Bourgeois qui est au téléphone avec nous en Nouvelle-Calédonie. Yves Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le réalisateur du documentaire qui doit être tourné sur les lieux du naufrage de La Pérouse. Mais avant d'en parler, j'aimerais que, avec vous et avec nos deux invités, nous revenions 220 ans en arrière, en 1785, à Brest, d'où est partie La Pérouse. Quelle était sa mission, Yves Bourgeois?
La mission de La Pérouse, en fait, elle est intervenue dans la continuité, et l'amiral Bellec en parlera certainement, de cet assassinat de James Cook, la star de l'époque, et qui, d'un seul coup, laissait une opportunité au gouvernement français de l'époque de pouvoir afficher sa capacité, lui aussi, d'être véritablement un leader sur les océans. Et la première mission de La Pérouse était de pouvoir compléter la cartographie de la planète. Il restait encore des blancs sur la carte. Il y avait aussi des territoires qui avaient été découverts, mais dont les positions exactes n'étaient pas fiables, dues à la légèreté de la longitude encore à cette époque-là. C'était un des enjeux importants, avec bien sûr l'établissement de comptoirs commerciaux, notamment sur les commerces des fourrures dans la partie nord de l'Atlantique.
James Cook, auquel vous avez fait référence, avait été tué effectivement aux îles Hawaï, je crois que c'était 6 ans avant le départ de La Pérouse de Brest. Amiral Bellec, c'est une mission scientifique, elle n'est pas militaire. D'ailleurs, les 2 bateaux, l'Astrolabe et la Boussole, n'étaient pas des bateaux de guerre.
Oui, tout à fait. En fait, on les a appelés frégates. En fait, c'était des gabarres, c'était des bateaux qui avaient été choisis comme l'avait fait Cook. D'ailleurs, c'est des bateaux solides, résistants. qu'on avait baptisé du titre de frégate pour que ça soit mieux. Et je m'inscris un petit peu en faux dans l'idée de dire que ce voyage était un voyage d'espionnage. C'était pas
oui, ça c'était tiré d'une dramatique de
l'histoire. Voilà, parce que c'était vraiment un voyage humaniste et je crois que c'est très important. C'est que les voyages français ont toujours été humanistes.
Louis XVI, je vous interromps, mais Louis XVI, en fait, avait demandé à la Pérouse et à ses hommes de bien se conduire avec les populations qu'ils pouvaient croiser dans le Pacifique. Et même, il n'était pas question de, comme on le faisait souvent, comme Cook l'a fait, par exemple, de prendre possession des terres découvertes au nom du roi de France.
Oui, tout à fait. Louis XVI a estimé que ce qui pouvait arriver de mieux, c'est que le voyage fût accompli sans verser une seule goutte de sang. Et au passage au Hawaï, dans une île qui n'était pas revendiquée, la Pérouse dit « Si je n'ai pas cru devoir en prendre possession, parce que c'est pas normal de prendre possession de terres dans lesquelles des populations enterrent leurs morts depuis des générations ».
Alors c'est une expédition scientifique, ça veut dire qu'à côté des marins, bien sûr, qui l'accompagnent sur ces deux bateaux, je répète, l'astrolabe et la boussole, il y avait donc effectivement des tas de scientifiques. C'était ça le but, de cartographier par exemple les îles qui existaient ou qui n'existaient pas, retirer de la carte des îles qu'on avait imaginées dans le coin.
Oui, et tout à fait, et ça grâce à l'apparition de la mesure de la longitude. Cook a été le premier à Bougainville aussi, mais il avait, tous les procédés n'étaient pas encore en état de marche. Cook a été le premier à pouvoir véritablement mesurer sa longitude, et la Pérouse a été le second qui l'a suivi. Donc l'idée, c'était de cartographier le Pacifique, mais d'assigner une position précise à tout ce qu'on a déjà trouvé.
Et c'est la raison donc de la présence à bord de très nombreux savants qu'amène la Pérouse avec lui, botanistes, géologues, anthropologues ou dessinateurs.
Quels sont ceux qui partiront avec vous ?
Le professeur de Lamanon, géologue et physicien, correspondant de l'Académie des sciences de Paris, Prévost, malgré sa relative jeunesse, est botaniste et dessinateur. Grévy, maître en mécanique de précision, devra veiller au bon fonctionnement des montres et des instruments de navigation. Duché de Vancy, connu pour la rapidité de ses croquis et de son coup de pinceau, devra représenter les êtres exotiques vivant sur les rivages lointains, mais surtout l'aspect et les dimensions approximatives des îles que nous découvrirons.
Une dernière question, monsieur Lapérouse. Combien d'hommes serez-vous ?
La boussole aura 111 personnes à bord et l'astrolabe en comptera 112.
Eh bien, bon vent, monsieur Lapérouse.
Ouvrez les voiles !
La barre à tribord.
La barre à tribord, commandant.
Et c'est donc le départ de la Pérouse de Brest, le 1er août 1785, le début d'un voyage qui devait durer 4 ans, parcourir 150 000 kilomètres dans un océan qu'on connaissait à peine. Yves Bourgeois, vous êtes à Nouméa, là vous allez sur les traces de la Pérouse, mais c'est vrai que le Pacifique au XVIIIe siècle, même s'il a été découvert par Magellan deux siècles plus tôt, on le connaît à peine.
On le connaît à peine parce que peu de bateaux, peu de découvreurs se sont aventurés dans cette région du monde. James Cook, à ce niveau-là, est certainement l'un des plus grands précurseurs, un des plus grands aventuriers à être allé aussi loin. Il avait notamment dans cette région où nous trouvons et dont nous partirons pour cette expédition 2005, découvert la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Reste encore la côte ouest à découvrir. Il est descendu relativement sud. C'est vrai que quand on découvre cette merveilleuse carte de Louis XVI, la seule carte qui a survécu au naufrage, si je puis dire, puisque elle est restée évidemment à Versailles, on découvre avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, les dessins des routes qui se sont succédées jusqu'au départ de la Pérouse et qui indiquent avec beaucoup de précision à quel point cette zone du Pacifique est encore un grand vide. D'ailleurs, il est très curieux de découvrir que plus vous remontez dans le temps, plus les dessins de ces routes pratiquées sont des routes horizontales, et pour cause, plus on recule dans le temps, plus évidemment on découvre que ces gens-là prenaient de moins en moins de risques pour s'échapper d'éventuels itinéraires, j'allais dire, droits, sécures, évitant de partir à l'inconnu. Et la carte de Louis XVI est pour cela un élément absolument extraordinaire d'appréciation.
Et des routes dangereuses, d'ailleurs, la Pérouse va le constater lui-même. Donc après avoir passé le Cap Horn, il va à l'île de Pâques, aux îles Hawaï, et puis alors sur les côtes de l'Alaska, où se produit le premier drame, Amiral Bélec.
Oui, dans un fjord qui aurait pu conduire à traverser l'Amérique, puisque l'un des objets du voyage, c'était de vérifier si ce fameux passage supposé traverser l'Amérique, voilà, passer jusque vers les Grands Lacs, existait. Un fjord se présente, la Pérouse entre dans une baie magnifique et il mouille. Et en faisant la cartographie de ce fjord et en essayant de cartographier les passes qui étaient dangereuses parce qu'il y avait un certain courant, ils avaient déjà failli s'échouer. Deux chaloupes ont été entraînées par le courant dans la barre et 21 jeunes officiers et marins se sont noyés. C'était le premier drame, la première catastrophe de ce voyage.
Il y en aura un autre aux îles Samoa, je crois qu'il y a le commandant de l'Astrolabe, Florio de Lange, qui a été tué par la population.
Oui, et également Lamanon qui a également été tué et le père receveur qui a été blessé mortellement, qui est mort plus tard à Botany Bay. Là, il s'agissait de faire de l'eau. Ils avaient eu de très bons contacts la veille, et puis le lendemain, ça s'est mal passé. C'était assez classique dans ces voyages. Pratiquement tous ces navigateurs étaient mal reçus, pas forcément parce que les populations étaient sauvages, mais surtout parce qu'elles avaient la trouille noire de voir arriver ces êtres sur des étranges machines venues de l'extérieur. Et les prenant pour des esprits malfaisants, elles essayaient au moins de les tester, sinon de les détruire.
Alors, il donne malgré tout de ces nouvelles, bon, pas souvent, évidemment, on est à l'autre bout du monde. Je crois que la première fois qu'on reçoit des nouvelles de la Pérouse, c'est son journal de bord. En 1787, les bateaux de la Pérouse mouillent sur les côtes du Kamchatka, qui se trouve au nord du Japon, tout à fait au nord-est de la Sibérie, une péninsule volcanique étonnante, dont on n'avait aucune espèce d'idée à quoi elle ressemblait, il n'y a aucune carte. C'est ça qui est extraordinaire, quand même, dans ces expéditions, c'est qu'aujourd'hui, je me tourne vers vous, Pierre-Louis Castelli, aujourd'hui, grâce au GPS, on sait exactement à quel endroit on se trouve. En plein brouillard, on peut savoir que la côte est à 200 mètres. À l'époque, on va dans l'inconnu.
Oui, on va dans l'inconnu parce qu'on est sollicité pour découvrir le monde. Et c'est ça ce qui est fascinant de ce voyage de la Pérouse et dans ces grands découvreurs, c'est qu'on ne sait rien du monde. Hein. On l'a dit avec l'amiral, on pense qu'en rentrant dans un fjord, on peut sortir de l'autre côté du monde. Et bien là, dans le Pacifique Sud, où même aujourd'hui, le Pacifique est considéré comme le plus grand désert maritime du monde, on ne savait quasiment rien.
Et quel courage il fallait quand même.
Ouais, c'était extraordinaire. Ouais, extraordinaire.
Alors, ils donnent de ces nouvelles, je disais, ils sont sur les côtes du Kamchatka, et là, il y a un membre de l'expédition, qui est d'ailleurs l'oncle de Ferdinand de Lesseps, Barthélemy de Lesseps, et qui est chargé par la Pérouse d'envoyer son journal de bord jusqu'à Versailles, mais par la terre. Il traverse toute la Sibérie, il va mettre des mois à venir avec des nouvelles de la Pérouse, c'est ça ?
Il va mettre plus d'un an. Ouais. Et quand on lit le journal de Barthélemy de Lesseps, ce qui est fantastique, c'est que les trois quarts de son journal, c'est la remontée du Kamchatka, parce que ça, c'est, après, il dit modestement, bon, le reste, c'est banal, rentrer de Saint-Pétersbourg à Paris, c'est pas compliqué, mais il raconte cette aventure, ça a duré plus d'un an. Et tout le monde était persuadé, quand il a quitté l'expédition, qu'il avait peu de chance d'arriver à l'autre bout. Et lui-même a été extrêmement surpris de savoir que ses camarades avaient disparu.
Alors, il va encore donner de ses nouvelles. Il va, après le Kamchatka, il va descendre vers l'Australie. Et c'est de là qu'il envoie sa dernière lettre, je crois, Amiral Bellet.
Oui, ses dernières lettres, c'est à Clarette Fleurieu, qui était chargé des opérations au secrétaire d'État à la Marine, et au ministre, qu'il pensait toujours le maréchal de Castres, qui n'y était plus d'ailleurs entre-temps, puisqu'il avait été remplacé, c'était monsieur de la Luzerne. Et la Pérouse indique là, à la fois... raconte son dernier drame, dont celui du massacre de Tutuia au Samoa, et donne ses intentions. C'est-à-dire, il va aller aux îles des Amis, c'est-à-dire au Tonga, il va revenir à la Nouvelle-Calédonie, il va explorer le nord de l'Australie, il va remonter vers les Santa Cruz, et il a rendez-vous, il doit arriver à la fin de l'année à l'île de France.
Et ça, c'est le 7 février 1788, dernière lettre de la Pérouse, après quoi plus rien, plus de nouvelles, l'expédition disparaît corps et bien, et ce n'est que beaucoup plus tard qu'on saura ce qui s'est sans doute passé. Les deux navires ont fait naufrage dans l'archipel des Salomons, sur les côtes de l'île de Vanikoro, victime d'un cyclone tropical. On écoute le récit d'Henri Guaran, membre d'une expédition partie à la recherche de la Pérouse en 1999.
Dans la nuit, le cyclone arrive, le vent les pousse, il les chasse et d'un seul coup se dresse la barrière. Le déferlant énorme de la houle qui se fracasse sur les têtes de corail. Le bateau, le réflexe est de mouiller. De mouiller pour essayer de se retenir. Et en même temps, lance un signal pour le bateau qui suit en disant « Attention, pour nous c'est le drame. » Le bateau mouille, il évite au vent, l'arrière s'encastre. L'autre bateau prévenu arrive à se dégager un petit peu. Au milieu du passage se dresse une cathédrale de corail sur laquelle l'astrolabe s'empale. Les mâts tombent, mais le bateau reste.
Ici, on périt près de... marins, savants et officiers du roi.
Et c'était un extrait de votre documentaire, Yves Bourgeois, le mystère de Vanikoro, le naufrage de la Pérouse sur l'île de Vanikoro. Mais il a fallu 2 siècles et plusieurs expéditions pour savoir ce qui s'était passé et où ça s'était passé, Yves Bourgeois.
Et oui, en fait, tout a démarré 40 ans après le naufrage. Il faut préciser d'ailleurs que le sort qui s'acharne un petit peu sur cette expédition du siècle des Lumières fait que quand ils disparaissent dans le Pacifique Sud, dans cette nuit d'un cyclone, ils disparaissent doublement parce que dans le même temps, la révolution éclate en France. Et du coup, les deux navires sont à la fois naufragés, j'allais dire, physiquement, et en même temps naufragés d'une manière assez inattendue par tout un pays, tout un continent qui les a pourtant envoyés faire ce voyage autour de la planète. Et c'est là où cette expédition rentre dans l'histoire, et 40 ans plus tard, un bourlingueur, un aventurier des mers du Sud, trouve au hasard d'une rencontre dans une petite île de Tikopia, à quelques encablures, à 3 jours de pirogue exactement de cette île du naufrage Vanikoro, trouve une garde d'épée en argent frappée d'une fleur de lys qui va d'un seul coup révéler un premier indice sur ce que peut être le lieu du naufrage.
Et c'était en fait sans doute l'épée de la Pérouse, je crois, Amiral Bellec, non ?
Oui, tout à fait. Mais enfin, c'est une épée d'un type assez, assez classique, qui aurait pu en fait même être une épée d'un des scientifiques de l'expédition. En tout cas, il est clair que c'est de la découverte miraculeuse d'ailleurs, parce qu'il y a la poignée et la garde qui ont été trouvées séparément et dans endroits différents, et qui apportent la preuve qu'un bâtiment français est passé par là.
Ouais. C'était en 1827, 40 ans après la disparition de la Pérouse, et on sait que c'est à Vanikoro, enfin d'après ce qui a été dit à Dillon, à ce capitaine irlandais. Et alors là commence des recherches, il y en aura d'autres, il va y avoir Dumont d'Urville un peu plus tard, qui va être envoyé, je crois, sous Louis-Philippe.
Oui, c'est-à-dire que bon, Dillon découvre ses preuves, on lui dit que c'est à Vanikoro, il y va. Mais je voudrais revenir sur le fait que 40 ans, ça fait 2 générations, hein. 40 ans, c'est comme si un bateau avait disparu avant 1068. C'est-à-dire que sur la face cachée de la Terre, on disparaît totalement, dans le noir absolu. Et donc, Dumont d'Urville était lui aussi en train de mener une campagne d'exploration tout en recherchant lui aussi. Et il a appris en Tasmanie, il a été informé par Dillon qui a laissé un document, qu'il avait trouvé quelque chose. Et Dumont d'Urville est arrivé dans la foulée de Dillon quelques mois plus tard et a continué ses premières investigations. Et tous les deux ont rapporté à Paris des preuves indiscutables qu'ils avaient recueillies à terre, d'ailleurs, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas des plongeurs archéologues comme maintenant, mais ils avaient trouvé à terre des tas de témoignages indiscutables.
Ce qui est curieux, c'est que ces recherches vont s'interrompre pendant de très nombreuses années, Yves Bourgeois. En fait, il faut attendre un peu le début des années 1960 au XXe siècle pour que ça reprenne.
Oui, alors la Marine nationale, qui n'a jamais cessé, d'abord selon sa tradition d'être à la recherche et à l'écoute de tous les naufragés ou tous les marins disparus, grâce à la passion et l'énergie de l'amiral de Brossard, l'aventure, j'allais dire, repart. Et elle repart avec certains personnages comme l'amiral de Brossard qui vont de nouveau s'intéresser à l'île de Vanikoro, et avec la volonté de trouver d'autres traces du naufrage, peut-être en un premier temps pour essayer d'avoir une précision d'identification sur les sites des deux épaves. Je rappelle que toujours aujourd'hui, il y a ce doute sur l'identité réelle de quel est le navire qui s'est
perdu. Mais on y reviendra, parce que c'est l'objet des recherches que vous allez faire maintenant à partir de Nouméa. Alors les investigations, il y en a déjà eu, parce que cette association Salomon d'Alain Conant, qui depuis le début des années 80 a organisé plusieurs expéditions, fait des recherches non seulement sur les côtes de Vanikoro pour y trouver les épaves, mais alors ce qu'il y a de plus extraordinaire, en 1999, je crois, on a même découvert ce qu'on appelle le camp des Français, qui voudrait dire que il y aurait eu des rescapés du double naufrage, de l'Astrolabe et de la Boussole, et que ces rescapés se seraient installés dans l'île. Ça, ce sont des recherches qui ont été faites et qui ont découvert un camp.
Absolument. Alors là aussi, il faut préciser que pendant des décennies, on a considéré que le naufrage était une fin en soi, et que les deux bateaux s'étaient perdus avec leurs hommes, et qu'il n'y avait pas eu de survivants. Et puis, dans la conviction de certains passionnés, en l'occurrence Alain Conant, qui fait partie de cela, il y avait cette intime conviction qu'il y avait eu une suite au naufrage et que certains d'entre eux avaient pu survivre et que, à partir de là, on pouvait imaginer que ces naufragés avaient dû établir un camp de fortune quelque part pour au moins, au minimum, peut-être reconstruire un petit bateau permettant d'aller chercher du secours à l'extérieur. Il faut également dire qu'il y avait à bord de ces navires de la Pérouse des petits canots, des biscayennes, mais des petits canots un peu plus courts, même des bateaux en kit démontables qui permettaient de pouvoir disposer d'embarcations complémentaires lors de différentes visites. Et à partir de là, on pouvait imaginer que si un bateau, l'un des deux, avait pu survivre, il pouvait dans ces cas-là engager une vie installée provisoire, mais en tout cas pour permettre de repartir et aller chercher du secours à l'extérieur.
Oui, parce qu'on dit aussi, il y a la tradition orale qui dit que les habitants de l'île disent que au fond, les Français qui auraient débarqué auraient été massacrés. Alors, cela dit, on a découvert ce camp en 1999, tandis qu'une autre expédition faisait une découverte beaucoup plus importante, un crâne et un squelette trouvés sur les récifs de Vanikoro en novembre 2003.
Il y a un type entier ou quoi ?
Il est entier, oui, il n'y a pas de doute. C'est vraiment... C'est impressionnant.
C'est humain, ça c'est sûr. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils aient
des grands singes,
etc. Je pense que c'est le point culminant de tous les travaux de vous tous, de l'association, et c'est un triomphe collectif et historique à la fois.
Il faut comprendre qu'il est là depuis 220 ans.
Et puis ensuite, on a affaire à quelqu'un qui est parti de chez lui, qui a peut-être laissé une femme et des enfants. Donc ça, je voulais qu'on garde une petite pensée pour cette famille qui un jour a vu partir un homme et ne l'a pas vu revenir. Alors c'est un squelette qui va être bavard, c'est-à-dire qui va donner un maximum d'informations.
Et c'était un autre extrait d'un autre documentaire, de votre documentaire Yves Bourgeois, qui s'appelle Portée disparue. Est-ce qu'on sait qui était l'homme dont on a trouvé le squelette il y a 2 ans? Dans ce documentaire, on voit même d'ailleurs la reconstitution de son visage à partir de son crâne. C'est une véritable enquête policière qui a été faite, Yves Bourgeois.
Il est certain que à cet instant de l'histoire, et en tout cas du film, j'étais parti, moi, pour faire un film qui devait durer 52 minutes, et d'un seul coup, dans l'aventure, une autre aventure commençait. Il est évident que quand on trouve un homme, il se passe d'ailleurs sur le plan purement affectif, quelque chose de tout à fait particulier. On se souvient tous d'ailleurs avec énormément d'émotion. Ça n'est plus du tout comme quand vous sortez un plat de vaisselle de Macao ou une quelconque pièce certes passionnante de l'accastillage du navire. Là, il s'agissait d'un homme, c'était le premier homme de l'expédition de la Pérouse qui d'un seul coup apparaissait à nos yeux, et je ne vous cache pas qu'il y avait dans cet instant précis de la sortie du crâne, en ce qui me concerne en tout cas, le sentiment de vivre une sorte de rédemption. On avait l'impression qu'on avait libéré de son piège ce personnage,
220
qui
ans
avait
après.
D'un seul coup la capacité de pouvoir peut-être nous dire quelque chose. Et c'est ce qui a suivi derrière, avec toute cette aventure au sein des couloirs de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle, puis ensuite, en un dernier temps, cette capacité extraordinaire que nous offre la sculpture en paléoanthropologie, avec l'intervention d'Elisabeth Dénès, nous permettant, grâce aux données de l'anthropologie, et en l'occurrence de toutes les coordonnées scientifiques données par les chercheurs de l'IRCGN, la possibilité de reconstruire, le sentiment de pouvoir vivre une aventure un peu spéciale avec quelqu'un presque de vivant, le véritable visage du personnage.
Alors ça, c'était en 2003, et l'avant-dernière, puisque maintenant, justement, la dernière à laquelle vous participez, à laquelle va également participer l'amiral Bellec, elle part, là, en ce moment, de Nouméa. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir encore, puisqu'on sait que la Pérouse a fait naufrage avec ses deux bateaux à Vanikoro? Qu'est-ce que vous allez chercher maintenant dans ce qui doit être la dernière expédition à la recherche, au fond, à la découverte du mystère La Pérouse?
Alors, les principaux enjeux se situent toujours, pour ce qui est du chantier sous-marin, de pouvoir mettre un terme à ce flou, à ce doute sur le nom des sites du naufrage. Est-ce la boussole qui est dans la faille? Est-ce l'astrolabe qui est dans la fausse passe ou inversement? Il est évident que si on arrivait à prouver de manière définitive et incontestable que la boussole était sur la barrière de récif, on pourrait considérer que la Pérouse faisait partie des disparus et n'était pas avec ses hommes naufragés à terre. Et puis, les autres enjeux, c'est de continuer à chercher à terre d'autres indices permettant d'affirmer que les restes du camp découvert en 99 étaient soit un petit camp provisoire d'installation avant d'aller dans un camp plus durable, on parle, selon la tradition orale, de plusieurs lunes. C'est dire si certains d'entre eux ont dû rester un certain temps sur l'île avant de pouvoir ou mourir ou repartir. Et donc, trouver d'autres indices permettant de comprendre ce qu'a été l'épilogue des naufragés vivants, en l'occurrence, des traces de sépulture. Évidemment, on est au siècle des Lumières et on ne peut pas imaginer que les officiers de cette époque ont imaginé une fosse commune, ou en tout cas créé une fosse commune pour enterrer les disparus. Il y a certainement quelque part les vestiges d'un cimetière. Le rêve, évidemment, maintenant, serait de trouver en plus, mais ça fait partie un petit peu des rêves de tous, ce qu'on appelle un petit peu entre nous le trésor de la Pérouse, mais qui sont les restes des travaux des scientifiques, des collections de minéraux, de coquillages, de tout ce qui a pu être la cargaison de presque trois ans de bouclage autour de la planète avec l'élite scientifique française.
Merci Yves Bourgeois et bonne chance donc puisque vous partez jusqu'au 15 mai donc dans cette expédition dans le Pacifique sur les traces de la Pérouse, une expédition dirigée par Alain Conant, président de l'association Salomon de Nouvelle-Calédonie. Vous partez, François Bellec qui était avec nous aussi va vous rejoindre à Nouméa où vous trouvez encore. Je rappelle que vous avez réalisé deux documentaires sur la Pérouse dont nous avons entendu des extraits, Le mystère de Vanikoro et Portée disparue sur les traces de Monsieur La Pérouse, deux films disponibles en DVD chez Atom Productions. Vous avez pu entendre également des extraits de l'émission La Tribune de l'Histoire d'André Castelot, diffusée le 14 janvier 1989 sur France Inter. Je signale enfin que durant toute la durée de l'expédition, vous pourrez retrouver tous les jours dans la partie magazine du 13-14 la chronique de Pierre-Louis Castelli qui était avec nous donc aujourd'hui et de Laurent Goria, donc tous les jours dans le 13-14 des nouvelles de l'expédition à la recherche de La Pérouse. Et pour plus d'informations sur cette expédition sur La Pérouse, vous pouvez contacter le 3230, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site officiel de l'expédition www.opérationlapérouse2005 en un seul mot .com, ainsi que le dossier qui lui est consacré sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Rémi Quincet, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph Julien et Anne Kobilac pour la réalisation. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets dont trois anniversaires. Lundi, Jean Jaurès, le père du Parti Socialiste Français, créé il y a tout juste 100 ans. Mardi, un écrivain français pendant l'occupation, Louis-Ferdinand Céline. Mercredi, 60 ans après sa mort, un des plus grands présidents des États-Unis, Franklin Roosevelt. Jeudi, l'aventure du pétrole. Et enfin, vendredi, la chute de Saïgon. C'était il y a 30 ans, le 30 avril 1975. Il est presque 14h30 à quelques secondes près. Vous êtes sur France Inter et vous y restez bien sûr pour Musique Express. Eric Oswald, bonjour Eric.
Bonjour Patrice, je suis très heureux de vous retrouver enfin à l'antenne.